Bon, Bezrat Hashem de la Sefer Hatzliach, on commence Maseret Ktuvot, qui est donc la deuxième Maseret, le deuxième traité de Seder Nashim. C'est la première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi le deuxième traité de Ktuvot. On s'était déjà posé la question à propos de Yevamot, pourquoi avoir apporté un premier traité dans le Seder Nashim, donc tout ce qui concerne les femmes, on va voir exactement ici de quoi il s'agit. On aurait dû d'abord parler du mariage, avant de parler de la Ktuva, puisque Ktuvot veut dire Ktuva. On va expliquer ce qu'est une Ktuva, mais d'abord pourquoi avoir en deuxième lieu rapporté le traité Ktuvot, alors qu'on aurait dû peut-être d'abord apporter le Maseret Kiddushin. D'abord on dit Kiddushin, d'abord on s'en épouse, d'abord on fait les Kiddushin. Et ensuite, la Ktuva, ensuite on amènera donc la Ktuva. Le Rambam, dans son introduction sur le Maseret Kiddushin, il rapporte cette question. Il dit comme... A priori, c'est très ressemblant à Maseret Yevamot. On a déjà expliqué que Maseret Yevamot, on l'avait mis en premier lieu. Et la raison était très simple, comme l'avait dit le Rambam lui-même. C'est parce que le lien qu'il y a entre cet homme et cette femme dans le traité de Yevamot, pour ceux qui ont déjà étudié le traité de Yevamot, le lien, la zika est déjà présente. La réservation est déjà là. Il ne faut que concrétiser le mariage. Mais comme on avait expliqué, ils sont déjà en partie mariés. Donc une femme, on avait parlé de ce problème de Yiboum, une femme qui, lorsque son mari décède et qu'elle n'a pas d'enfant, elle va devoir épouser le beau-frère. Donc si elle ne veut pas l'épouser, elle doit faire la chalitza. Donc pour se séparer, ça veut dire qu'elle est déjà en quelque sorte liée à lui. C'est pour ça qu'on avait commencé par le traité Yevamot, qui est déjà un mariage qui est déjà entamé, en quelque sorte. Maintenant, pourquoi alors Ktuvot? Parce que Ktuva, c'est également peut-être la même chose, dit le Rambam. Pourquoi? Parce que Ktuva, il s'agit des Nisouin. Et cette femme est donc déjà mariée, puisqu'elle a déjà eu les Kiddushin. On verra que la Ktuva se transforme au moment des Nisouin, au moment du mariage lui-même. On verra ce que sont les Nisouin. Puisque, en réalité, ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les Kiddushin et les Nisouin. Dans le mariage, donc comme il y avait à l'époque, il y avait deux parties. Il y avait la première partie qui s'appelait les Kiddushin, comme on a étudié dans le traité Kiddushin, Mishtar, Kesef ou Biya, avec un contrat, avec de l'argent. Et jusqu'à 12 mois plus tard, ce n'est que 12 mois plus tard qu'il y avait ce qu'on appelle les Nisouin. Donc le Nisouin se concrétisait soit par Yihoud, par un isolement, d'accord, ou sous la Choupa. D'accord? Mais de rentrer sous la roupa, ce sont les Nisouin. Donc, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils séparaient les Kiddushin et les Nisouin, et il y avait 12 mois entre les deux. Aujourd'hui, on le fait les deux simultanément, on va expliquer tout de suite pourquoi. Mais toujours est-il qu'on comprend maintenant que Yevamot était en premier lieu, parce que c'est un mariage qui est déjà en partie entamé, qui est déjà réservé à son mari, ou alors elle doit donc se défaire de ses liens si elle veut se retirer. Donc, c'est le mari qui fait Khalitza. C'est le mari qui se défait de ses liens. Ici, dans Ktuvot, c'est également elle est déjà mariée, puisque les Kiddushim ont déjà eu lieu. C'est pour cette raison qu'on a mis ces deux traités l'un à la suite de l'autre. Maintenant, d'autres commentateurs, comme le Pneushua, eux rapportent qu'il y a en réalité un lien entre la fin du traité Yevamot et le début du traité Ktuvot. C'est pour cette raison qu'on a choisi cet ordre dans ces traités, qu'on a mis d'abord Ktuvot avant le traité de Kiddushim qui concerne le mariage. Alors, il est intéressant de savoir, c'est très particulier pour notre étude cette année, c'est que la Maseret Ktuvot est appelée par la plupart des, on va voir même Rachid, les Rishonim, on l'appelle Chasse Katan. C'est un mini chasse. Chasse veut dire donc l'ensemble du Talmud. Pourquoi un mini chasse? Parce qu'il y a énormément de sujets. On va développer toutes sortes de sujets. Vous verrez que dans ce Pérec, on va parler du mariage, de la Ktuva, on va parler de Tanat Betolim, la revendication de la virginité, qu'on va expliquer tout de suite. On va parler des lois de deuil. On va parler également des lois de Yom Tov. On va parler également donc tout ce qui concerne également les brachot que nous faisons avant ou pendant le mariage, sous la choupa. Donc tout ça sera développé dans ce Pérec. Et dans toute la Maseret, il y a énormément de sujets qui sont développés. Et ça correspond un peu à un mini-chasse, puisqu'il y a beaucoup de sujets, et c'est une Maseret qui est très importante. Certains vont dire que quand on étudie bien cette Maseret, ce traité, on est capable ensuite de nager, de pouvoir répondre, et en tout cas de comprendre les sujets qui sont développés dans la plupart des parties de l'ensemble du Talmud du chasse. Alors d'abord, Ktuvot. Pourquoi ça s'appelle Ktuvot? Ktuvot, on verra que ça vient du mot Ktuva. Alors qu'est-ce que la Ktuva? Bien définir c'est quoi la Ktuva pour comprendre de quoi il s'agit ici. La Ktuva, c'est un contrat où on inscrit, lors du mariage, toutes les obligations qu'a l'homme envers sa femme et inversement. Donc c'est vraiment un contrat, c'est pas seulement l'acte de mariage, ça n'a rien à voir avec l'acte de mariage. C'est un contrat où on parle de toutes les obligations. Plus particulièrement, on parle également de l'aspect financier qu'il y a dans ces obligations. en cas de d'abord les obligations financières qu'a l'homme envers sa femme, on verra d'autres obligations, on verra qu'il y a 8 obligations qu'a l'homme envers sa femme, les obligations financières, et également en cas de, si jamais, donc on parle en cas de décès du mari également, la ktouva va la protéger par rapport aux héritiers. Donc non seulement en cas de décès, mais également surtout en cas de divorce, puisque la ktouva c'est ce qui permet à la femme de demander à avoir, exiger avoir son argent pour pouvoir survivre en cas de divorce. On l'a vu également, c'était dans le Maseret Touvot, que la ktouva, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la ktouva c'est ce qui permettait, c'est inscrit dans la Gemara un peu plus loin, c'est ce qui permettait à l'homme de bien réfléchir avant de divorcer. Puisqu'il avait une somme importante à payer, eh bien, avant de divorcer, il ne prenait pas ça à la légère. Il prenait il réfléchissait bien, et il ne divorçait pas à tout va, n'importe quand. Il épousait plusieurs femmes. Il savait qu'il y avait une obligation importante, donc c'est pour cette raison qu'on donnait à cette femme ce pouvoir, cette tout va, qu'elle devait avoir à portée de main, qu'elle doit toujours avoir aujourd'hui à portée de main, pour pouvoir, donc, se préserver en cas de divorce, en cas de décès du mari. Alors, quelle est la somme qu'on inscrivait sur la tout va? La somme, elle est donc de 200 zouz. 200 zouz, ça permettait de vivre une année. Donc aujourd'hui, on peut faire une évaluation, je sais pas, 15, 20 000 euros. Ça permettait donc de vivre une année pour que cette femme puisse, pendant une année, survivre. Donc la ktouva, on parle pour l'instant d'une ktouva d'une femme qui était vierge, qui n'a jamais été mariée, d'accord, qui n'est pas ni veuve ni divorcée, et qui est vierge, donc elle a droit à une ktouva de 200 zouz. Pour une femme divorcée ou une femme veuve, en général une femme, ou alors également en général une femme qui n'est plus vierge, eh bien sa ktouva sera de 100 zouz, donc de la moitié de ce à quoi a droit une femme qui est vierge. Donc aujourd'hui, même pour les femmes qui ne sont pas vierges, le mari, lorsqu'il épouse une femme qui n'a jamais été mariée, en principe il accepte, il prend sur lui, il accepte de l'épouser en tant que femme vierge. Même si elle n'est pas toujours vierge, ça peut arriver de nos jours, eh bien, il va l'épouser en tant que femme vierge, donc il s'engage à lui donner un argent de 200 zouz, c'est-à-dire de quoi vivre un an en cas de divorce, en cas de décès. On verra dans toutes sortes de cas. Alors, la question est de savoir également, la ktouva, est-ce que c'est midoraita ou midrabanan? D'où ça vient cette histoire de ktouva? Et ce sujet sera développé plus tard, on le verra, marloket rishonim, on le verra même dans la Gemara. Alors, on apprendra du pasouk kesef ishkol kemoar abetulot. D'accord, Kesef Ishkol Kemoar Abetulot. Et on verra que le Roche et Tosfot, la plupart des Rishonim rapportent que le Roche et Tosfot, donc d'après eux, c'est Minatora. D'accord, puis on ramène un pasouk, Kesef Ishkol Kemoar Abetulot. On verra que le Roche rapporte aussi particulièrement. D'accord, de Chazulichi Bideoraita, c'est ce qui est inscrit même dans la Ktouva. Si vous voyez qu'il est inscrit dans la Ktouva, de Chazulichi Mideoraita, ça veut dire que c'est une Ktouva Mideoraita, selon le Roche, selon Rashi. On verra que la Gemara rapporte aussi même un avis de Rabban Shimon ben Gamliel, où à la fin la Gemara même renverse un peu même cette idée, qui dit que c'est Miderabanan. Donc c'est dans Ktouvot d'Afioud, Amoud Aleph, on verra plus loin. La Gemara va même dire à la fin qu'en réalité peut-être que Rabban Gamliel pense l'inverse. Mais toujours est-il que Rabban Gamliel a l'air de dire que c'est Midérabanan. Donc la Ktouva, c'est Midérabanan. C'est donc une marloket rishonim. Est-ce que la Ktouva est Midérabanan ou Midéoraita? Même aujourd'hui, une Ktouva ashkenaz, il y a écrit Chazulichi Midéoraita, comme pense le Rashi et le Roche. Et la plupart des Ktouvot séfarades, comme elles sont faites dans les règles de l'art par un bon Rav, c'est bien séfarade, eh bien il n'y aura pas écrit les Chazulichi Midéoraita. Donc, comme on l'a expliqué, c'est dans la Gemara, dans Baba Kama Daf Petet, donc 89a, la raison pour laquelle on donne la Ktouva à cette femme, pourquoi? Pour ne pas qu'il divorce aussi facilement, il faut qu'il prenne son temps et qu'il réfléchisse avant de divorcer. Et c'est pour cette raison qu'il y a également cette valeur d'argent, qui, mis à part, bien sûr, la protection de la femme, ça permettra à l'homme de réfléchir avant de divorcer. Alors, quelles sont les obligations qu'a l'homme envers sa femme? Bien sûr, il doit, comme c'est écrit dans la Ktouva, il doit la protéger, il doit la satisfaire, même sexuellement, il doit l'habiller. On va voir, il y a 8 obligations, essayons de les énumérer pour avoir une idée un peu de quels sont les droits qu'a une Ktouva. Il y a 8 obligations. La première, c'est donc de la nourrir. D'accord? Il doit nourrir sa femme. Ensuite, il doit l'habiller. Donc, il faut qu'il lui achète des habits. C'est important de le savoir. On a tous, on est, moi, au Hachem, ici dans ce cours, la plupart mariés. Eh bien, on a des obligations envers notre femme, envers nos épouses. Alors l'habiller, la guérir, c'est-à-dire que une sécurité sociale, une mutuelle, il faut faire en sorte que si elle soit malade, si elle est malade, eh bien de tout faire en sorte qu'elle soit guérie avec les meilleurs médecins. C'est l'obligation de l'homme envers sa femme. Alors si elle est, si un homme, sa femme est prise et prisonnière, comme ça existait souvent à l'époque, pidyon shvuim, l'homme a l'obligation de donner tous ses biens pour acheter sa femme si elle a été prise et si elle est prisonnière entre les mains de ravisseurs. Donc ça, évidemment, c'est partie de l'obligation qu'un homme a envers sa femme. Bon, cinquièmement, c'est pas joyeux, mais les frais d'enterrement. Si elle décède, c'est à lui donc de s'occuper de tous les frais de l'enterrement. Même, pas seulement ça, sixièmement, si l'homme décède, et on va voir, il peut avoir des héritiers de différents mariages, d'accord ? Si l'homme décède, eh bien, tous les frais de maisonnote, de ce que la femme a le droit de consommer, de manger, enfin, tout ce qui va lui permettre de survivre, même après la mort du mari. Même si le mari décède et qu'il y a un héritage, on prélèvera de cet héritage pour pouvoir nourrir cette femme et pouvoir subvenir à ses besoins. Ça veut dire que même si elle n'a pas eu d'enfant et qu'il a eu d'autres enfants avec une autre femme, si cette femme est encore sa femme, puisqu'on voit qu'il existe dans la Torah, on peut épouser plusieurs femmes, même s'il avait des femmes des enfants d'un ancien mariage, par exemple, eh bien on doit prélever de l'héritage pour donner à cette femme, et ça fait partie des obligations qu'un homme envers sa femme, même dans sa ktouva. D'accord ? Également, si l'homme a des filles, eh bien, il a l'obligation, et ça fait partie de la ktouva, des filles avec cette femme, de nourrir ses filles jusqu'à ce qu'elles se fiancent. D'accord ? Donc jusqu'à ce qu'elles passent entre les mains d'un autre homme, qu'elles soient indépendantes financièrement, l'obligation de leur donner de quoi manger. Et également, comme on a dit, le huitième obligation qu'a l'homme envers sa femme, c'est l'héritage de sa ktouva. Si elle a des garçons d'un autre mariage, et même s'il laisse un héritage, on prélèvera cet héritage pour donner une ktouva à cette femme lors du décès de son mari. Donc tout cela pour préserver cette femme et lui donner de quoi vivre et survivre en cas de décès ou en cas de difficulté. Donc la ktouva, c'est vraiment un contrat qui s'appelle aujourd'hui la ktouva, on verra, c'est financier, c'est ce qui permet à la femme d'avoir une assurance, quelque part, lorsqu'elle se marie avec un homme, en cas de difficulté, en cas de problème, en cas de souci. On va maintenant essayer d'introduire un petit peu notre Mishnah. Notre Mishnah, donc Davbet Amoud Aleph, Masechet Ktuvot, qui commence par Betula Niset Liyom Arevi. Donc comme on l'a expliqué, la Betula, eh bien cette femme, on parle ici bien sûr d'une femme qui est Betula, mais qui est déjà Mekoudeshet. Qui est déjà Mekoudeshet, ça veut dire qu'en fait elle a déjà épousé un homme. D'accord ? Comme on l'a expliqué, il y a deux parties dans le mariage. Il y a les Kiddushin, qui se faisaient à certains moments, où il y avait une transmission de l'argent ou du shtar. Et cet homme avait 12 mois ensuite pour épouser sa femme, s'il vous plaît. Il avait 12 mois pour épouser sa femme. Donc on lui donnait un maximum de 12 mois. S'il voulait le faire avant, s'il avait la possibilité, il pouvait le faire avant. Ces 12 mois permettaient à cette femme également de préparer son trousseau, de se préparer au mariage, de préparer les halakhot, de préparer les lois de la pureté familiale, de se préparer, pas seulement là, les lois de Hashkafa, de pensée juive pour construction du couple. Donc pour lui et pour elle, ils avaient un moment, ils avaient du temps pour pouvoir se préparer à cela. Alors il faut bien comprendre, et ça c'est important de savoir, que aujourd'hui on a, et on le fait différemment, lorsqu'il y a des fiançailles, on ne fait aucune acquisition, il n'y a rien qui se fait. Il y a directement, immédiatement, les kiddushin suivis des nisouin. Les nisouin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'était simplement l'homme qui revenait au bout de 12 mois et disait, voilà, maintenant, là, tu rentres à la maison. Donc elle venait, elle s'isolait avec lui devant deux témoins, ou alors elle passait sous la roupa, ce qu'on appelle sous la roupa, les différentes manières de faire, on verra les nisouin. Et c'est ce qui me permettait de concrétiser, donc de consommer le mariage, et cette femme était sa femme à part entière. Mais il faut savoir, et c'est très important de savoir, qu'avant ça déjà, cette femme, puisqu'elle était déjà Mekoudeshet, elle était déjà, pendant cette année-là, elle était entièrement sa femme. Elle était à lui, elle lui appartient, c'est-à-dire elle est Mekoudeshet, elle est sanctifiée à cet homme, et elle est considérée comme étant sa femme. Si jamais elle a une relation avec un autre homme, c'est ce qu'on appelle de l'adultère. C'est znout, puisqu'elle est considérée comme étant entièrement une femme mariée. Très important de le savoir. Aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, et on va expliquer pourquoi, aujourd'hui on le fait différemment, on suit les kiddushim immédiatement après les nisouim. La raison est très simple, c'est qu'à un certain moment, on se rendait compte que d'abord, il y a eu beaucoup de grandes difficultés dans le peuple juif, des guerres, des pogroms, des hommes qui étaient appelés à l'armée, et qui partaient, qui ne revenaient, on ne savait pas quand. Donc, il se trouvait qu'il y avait des femmes qui étaient vierges et mariées, et qui n'avaient pas de mari, parce qu'il était parti à la guerre, ou qui avaient été assassinées, tuées. Donc on se disait, au moins, qu'elle se marie, qu'elle ait un enfant immédiatement, pas qu'on fasse les kiddushim et les nisouim séparés. C'est pour ça qu'aujourd'hui également, pour d'autres raisons également, bon, passons sur ces raisons, aujourd'hui c'est simple, on préfère que tout se fasse en même temps. L'homme, il fait les kiddushim, donc c'est la bracha que fait le rav sous la choupa, la birkat kiddushim, et immédiatement après, donc, on fait kiddushim, la bracha, avec l'alliance, avec le kesef, on appelle kesef dans les kiddushim, et immédiatement on suit par la choupa, ils sont déjà sous la choupa avec les brachot, et après on fait cheder yichud, donc c'est ce qu'on appelle les nisouin. Donc aujourd'hui c'est suivi l'un immédiatement après l'autre. Alors comme je l'ai dit, il faut bien comprendre, si cette femme a une relation entre les kiddushim et les nisouin, c'était une relation adultérine, donc d'adultère, et elle était interdite à son mari. Si on avait deux témoins, si on a deux témoins qui témoignent qu'elle a une relation avec un autre homme, ou qu'elle s'est enfermée avec un autre homme, avec toutes sortes de raisons, eh bien, cette femme est considérée comme une femme qui a fait znout, et donc qui est interdite à son mari. Alors, évidemment, on va voir dans la Mishnah que on a fixé une date de mariage, qui était une date qui n'était pas imposée, mais qu'on conseillait, ou que toutes les femmes vierges se mariaient, eh bien, le mercredi. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer d'abord de lire la Mishnah. On verra que la Mishnah rapporte pas énormément de raisons. On rapportera les autres raisons qui sont rapportées dans la Gemara et dans d'autres endroits. Et on essaiera de comprendre également pourquoi la Mishnah n'a pas rapporté les autres raisons. Mais la Mishnah, c'est tout d'abord, elle a mis en point principal ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Et puis on verra également qu'est-ce qui se passe avec la Almana. Puisqu'il n'y a pas uniquement que la femme qui est vierge, qui est Betula. Il y a également la femme qui n'est pas vierge ou qui a Almana, ce qu'on appelle Almana. Almana, c'est une femme qui est veuve, mais ici c'est une considération plus globale, c'est une femme qui est veuve ou divorcée. D'accord? Et si on aborde de lire la Mishnah? La Mishnah nous dit, Almana c'est veuve, mais ici c'est la considération plus globale de toute femme qui n'est pas vierge. Alors la Mishnah nous dit la chose suivante, Betula. Betula niset leyom arevi'i. Alors la femme Betula, elle se marie donc leyom arevi'i, donc ça correspond à nous, le mercredi. Yom Rishon, c'est le premier jour. Yom Sheni, Shlishi, Revi, c'est donc mercredi. Mercredi, non, dans la journée. Niset le Yom HaRevi. On verra pourquoi. Ve Almana, et la Almana, le Yom HaChamishi, elle se marie donc le Yom Chamishi, c'est-à-dire le jeudi. Alors, la Mishnah va répondre, en fait, elle a donné une raison à la première phrase qu'elle a donnée. Et elle dit pour quelle raison? Chez Pamaim Beshabbat, car deux fois par semaine. Et ici, le mot Shabbat a un sens de mot semaine. Pamaim Beshabbat, deux fois par semaine. Bate dinim yoshvim bayarot. Les bate dinim, donc les tribunaux, yoshvim bayarot étaient installés dans les villes. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque les grandes villes, il y avait les petites villes, et il y avait les bourgades. Et il faut savoir que les gens se déplaçaient, allaient au jour du marché, dans les villes principales, pour pouvoir faire leur marché. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, aujourd'hui, on verra que on lit le Sefer Torah le lundi et le jeudi, parce que c'était des jours de marché. Donc, c'est pas Maïm Beshabbat, deux fois par semaine. Batedinim Yoshvim Bayarot. Les Batedinim sont installés dans les villes. Bayom Hasheni ou Bayom Hachamishi. Le lundi et le jeudi. Alors quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous change? Que le Bet Din siégé le lundi et le jeudi. Dit, répond la Mishnah. Shehim ayalo ta'anat betulim, ayamashkim le Bet Din. Car si jamais il a une revendication de betulim, de virginité, on va expliquer tout de suite de quoi il s'agit, eh bien, ayamashkim le Bet Din, il pouvait immédiatement, le lendemain matin, après le mercredi, se réveiller et aller le jeudi matin, alors qu'il est déjà encore sous cette emprise, sous cette colère, aller le jeudi matin, on va expliquer tout de suite toutes les raisons pour pourquoi, aller au tribunal pour faire, comme on verra dans Rashi, faire sortir cette rumeur et pouvoir éclaircir la situation, savoir si cette femme lui est permise ou lui est interdite. On va essayer de comprendre ensemble. A priori, la Mishnah est très courte. Elle rapporte très peu de choses, mais elle est très intéressante. Vous allez voir à quel titre elle est intéressante. Elle est très importante pour la suite. On va essayer d'apporter quelques éléments. Tout d'abord, s'il vous plaît. Tout d'abord, on nous rapporte que il siégeait le lundi et le jeudi. Alors pourquoi le lundi et le jeudi? Alors, il faut savoir que la plupart des Rishonim vont rapporter que s'il siégeait le lundi et le jeudi, ben la raison elle est très simple, c'est que il n'y avait pas beaucoup de, dans les petites villes, il n'y avait pas beaucoup de cas, et donc il fallait au moins que le tribunal siège au minimum deux fois par semaine, pour que les gens qui avaient des soucis financiers, d'aspect financier, toutes sortes de soucis, ici par exemple problème de revendication de virginité et ainsi de suite, eh bien on verra qu'ils avaient la possibilité, il faut qu'ils aient la possibilité de venir au tribunal pour avoir un dioun, pour demander que pour savoir ce qui se passe et quelle est la halakha, quelle est la loi juive. Alors a priori on verra tout de suite dans Rashi, regardez ce que dit Rashi. Takanat rachamimi betuvah nitzet liyom harevi. On reviendra sur ces Rashi. On va essayer d'abord de comprendre Rashi de manière très simple. On verra que ces Rashi, à travers les Rishonim, ont un peu plus de complications, mais sont très intéressants. Surtout le dernier Rashi. Alors, le premier Rashi nous dit Takan Chachamim. C'était une Takana des Chachamim. Chez Tinase Barevi, qu'elle se marie donc une femme vierge. Donc on célèbre le mariage donc le mercredi, Beshabbat, de la semaine. Kede Mefaresh Tama, comme on expliquera la raison. Alors, première raison, je vous le dis pour qu'on puisse comprendre un peu plus, la première raison qu'on vient de voir à l'instant ensemble, c'est que, comme on va le voir dans la fin du Rashi, la première raison c'est qu'il fallait absolument éclaircir si jamais l'homme a une relation avec sa femme ce soir-là, et qu'il découvre qu'en réalité elle n'est pas vierge. Il faut savoir qu'on verra qu'il y a deux revendications concernant la virginité. Tout d'abord, on l'expliquera vraiment, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, cette femme, si jamais elle a trompé son mari entre la période des Kiddushim et des Nisuim, elle est interdite à son mari. Donc il fallait impérativement que l'homme, sous sa colère, puisse s'approcher du Bedin le lendemain matin pour répandre la rumeur, comme on verra dans Rashi, et que le problème s'éclaircisse parce qu'elle lui est interdite. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle on se marie le mercredi, pour qu'ils aient des relations la première fois le jeudi soir. Mercredi soir, pardon, et que le jeudi matin, il puisse arriver au Bedin. Une autre raison pour laquelle on se mariait, donc, le mercredi également, eh bien, c'est très simple. Et d'ailleurs, c'est la même question qu'on pourrait se poser. Pourquoi pas le dimanche? Puisque le tribunal siège et le jeudi et le lundi, donc on devrait pouvoir, épouser une femme vierge également le dimanche, pour que si jamais il y a un problème de cette sorte, eh bien, la femme, l'homme puisse aller au tribunal le lendemain matin, qui est le lundi matin, puisque le Bedin siégeait également lundi matin. Alors, rapidement, pour dire que certains disent que si le Bedin siégeait lundi deux fois par semaine, c'était un minimum. On verra, ça fait partie de Takanot Ezra. Mais certains vont aller à dire que c'était même peut-être pour certains le maximum. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dayanim, le reste des jours, étudie. Donc, on leur disait, vous siégez lundi et le jeudi, mais le reste des jours, vous continuez à étudier la Torah parce que c'est vos obligations de pouvoir vous perfectionner dans l'étude de la Torah pour pouvoir répondre convenablement aux questions des gens. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, on a dit que la première raison, c'était celle-ci. Alors, pourquoi pas, donc, le dimanche? Alors, la deuxième raison, et ça c'est une raison qui n'est pas rapportée ici, on verra que c'est une raison des Chachamim, et on verra plus loin dans la Gemara. Eh bien, pour qu'il y ait 3 jours de préparation au mariage, s'il vous plaît, il faut qu'il y ait 3 jours de préparation pour préparer bien convenablement le mariage. C'est pour cette raison qu'on demandait à ce qu'il soit préparé dimanche, lundi, mardi et mercredi l'épouse. Donc, pour préparer, pour qu'il y ait un beau mariage, qu'il soit joyeux, festif, on verra qu'il y a des problèmes avec le Shabbat, pour pas que ce soit trop collé au Shabbat ou il y ait trop de problèmes par rapport au Shabbat, eh bien, les Chachamim ont fait en sorte qu'il y ait 3 jours de préparatifs. C'est pour ça qu'on a préféré le mercredi au dimanche. On verra également que ça sera plutôt pour les femmes, pour la almana, eh bien, c'est bien de lui donner 3 jours par la suite, après, jusqu'au Shabbat. On dira jeudi, vendredi, Shabbat, où le mari est pleinement actif pour s'occuper de sa femme et ne travaille pas. Donc on verra que c'est surtout pour la almana, mais au moins qu'il ne travaille pas. Ensuite, il y a la troisième raison qu'on peut rapporter et qui est intéressante, c'est qu'il y a 2 jours, et on verra, on a vu ici qu'il y a 2 jours. On a dit le mercredi et le jeudi. Le mercredi, c'est la femme vierge, le jeudi, c'est la femme qui est almana, qui n'est pas vierge, qui est ou veuve ou divorcée. Alors, il y a 2 jours dans les 7 jours de la création qui sont particuliers, c'est le mercredi et le jeudi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « prou urvou ». Donc, on demande à l'homme et à la femme, et bien sûr, c'est la meilleure bracha qu'on peut leur faire de se fructifier, de se multiplier. Et il faut savoir que le jeudi, donc c'est la bracha pour Piria Verivia, donc les poissons, donc Piria Verivia, bien sûr. Et le vendredi, donc le vendredi, c'est la bénédiction pour les hommes, on verra. Donc c'est la bracha pour les hommes, la Piria Verivia. Donc il y a eu 2 fois Piria Verivia, il y a eu le jeudi, et il y a eu donc le mercredi. En réalité, on parle ici de 2 femmes, la femme vierge et de la femme qui est almana. Pour bien résumer la situation, la Gemara rapporte, la Mishnah rapporte uniquement la raison pour la femme vierge. Le problème qu'on a vu dans Rashi, Sheim Yashkim, pour la revendication des Betulim. On verra que les Betulim, c'est très particulier. On va bien expliquer que, un peu plus tard, qu'il y avait 2 problèmes. Il y a Upetar Patouar, puisqu'il y a la virginité, il y a l'hymen. On a dit l'hymen qui est là ou qui n'est pas là. Et il y a aussi le sang, puisqu'il fallait également voir du sang. Si l'homme ne voit pas de sang, donc pour lui c'était une preuve que la femme n'était pas vierge. On verra comment ça se passe, on expliquera ça un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'aujourd'hui dans la Mishnah, elle rapporte une seule raison. La seule raison qu'elle rapporte, c'est uniquement pour la femme qui est vierge. Cette raison est une revendication que la femme ne l'est pas, ne l'est plus donc, et qu'elle a donc peut-être trompé son mari entre la période des Kiddushin et la période des Nisuin. Mais comme je dis, les Chachamim, on verra plus tard dans la Gemara, on rapporte d'autres raisons. La première raison, c'est ce qu'on a dit, hein, ce qu'on a dit donc, Chagdou, c'est pour qu'il puisse bien préparer, faire une belle fête, avoir une belle préparation du mariage. Et la deuxième raison, c'est que, comme je l'ai expliqué, vous avez posé une bonne question, c'est que il se marie mercredi, mais la première relation aura lieu le jeudi soir. Le mercredi soir dans la nuit. Mercredi soir dans la nuit, c'est donc jeudi. Le jeudi, c'est une bracha de Piria Verivia, puisque ça représente les poissons qui sont multipliés, ou la Torah a déjà dit pour eux, prou urvou. Fructifiez-vous et multipliez-vous. Maintenant, la almana, puisque elle n'a pas la raison de d'aller au tribunal, puisqu'elle n'est plus vierge de toutes les façons, puisqu'elle est ou veuve ou divorcée, donc elle se mariait donc le jeudi pour avoir une relation avec son mari le vendredi, le jeudi soir, donc le vendredi matin très tôt, donc le jour du vendredi. Et le jour du vendredi également, c'est une bracha, puisque c'est là où la Torah nous dit prou urvou à l'homme en lui-même. C'est cette raison qu'on donnait également, il y a ça. Et la deuxième raison qu'on a rapportée tout à l'heure, c'est également pour que l'homme puisse s'arrêter de travailler pendant tout le long week-end, depuis jeudi, jusqu'à, il fait le pont, on l'a dit, voilà. Jusqu'à Moté Shabbat, il s'arrête de travailler, là c'était impératif, on lui oblige de s'arrêter de travailler, et de réjouir sa femme pendant au moins les trois premiers jours du mariage. Donc, ces raisons-là sont extérieures, elles sont rapportées plus tard dans la Gemara. Alors, en réalité, ces raisons sont importantes, mais si on ne les a pas rapportées ici dans la Mishnah, c'est parce qu'elles ne sont pas suffisantes pour fixer une date de mariage. Ce sont des bons simanim, c'est bien. Mais pour devoir fixer une date de mariage, il fallait des raisons, une raison qui est une raison plus juridique, qui est la raison de Ta'anat Betulim, ce qu'on appelle la revendication, qu'on a vu, la revendication des Betulim de la virginité. Alors,
juste une petite question.
Oui, c'est en réalité, il y a la vraie raison pour laquelle on a fixé un jour, c'est à cause de la Betula. La Betula, c'est une raison juridique. Maintenant, là, l'almana, la raison qui est importante pour l'almana, c'est puisqu'on a déjà fixé pour la Betula, on a fixé aussi pour l'almana. Mais la raison qui est importante pour l'almana, c'est tout simplement parce qu'on voulait qu'il arrête de travailler pendant 3 jours. Ça, c'est important. Mais l'histoire du siman bracha, de se marier le mercredi ou le jeudi par rapport à la bracha de Prourvou, ça, c'est un siman qui n'aurait pas imposé une date. D'accord? Essayons donc d'avancer dans notre Rashi pour essayer de comprendre un peu plus cette Mishnah. Donc, nous dit Rashi, Betula Nisel Liom Arevi, Takanat Chachamim, Mishetinase Barevi, c'est une Takanat de Chachamim, Mishetinase Barevi, qu'elle épouse donc le mercredi, Beshabbat, et de Mefaresh Ta'ama, comme on verra, on vient de voir à l'instant donc les trois raisons. La raison de la Gemara et la raison qui est rapportée un peu plus tard. Bacheni ou Bachamishi, donc lundi et jeudi, Achat me aser takanot. C'est une des 10 takanot que Ezra a instauré dans la Gemara Bava Kama, pour ceux qui veulent les voir. Perek Meroube. Mais Farash de Kouleou, là-bas on explique toutes les 10 takanot. Les Kartiknushina Seberevi, c'est pour ça qu'on a été metaken également que cette femme épouse donc le mercredi. Chez Im Hayalo Ta'anat Betulin. Alors on va essayer d'abord de lire ce Rashi simplement et on essaiera peut-être de développer même au prochain cours un peu plus intensément ce que veut dire Rashi ici. Chez Im Hayalo Ta'anat Betulin, s'il a un problème de revendication des Betulim, comme nous l'avons expliqué, la revendication des Betulim peut se faire de deux manières. Ou alors il n'y a pas de sang, ou alors Petar Patuach Matsati, comme on verra un peu plus loin, j'ai trouvé la porte, entre guillemets, on pourrait dire la porte ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des déchirures d'hymen, et ça c'est uniquement pour les experts, comme le dira la Gemara. Il y a des gens qui arrivent à savoir s'il y a eu une déchirure de l'hymen, si c'est une femme qui n'a encore jamais eu de relation, ou c'est une femme qui a déjà eu des relations, ça c'est uniquement pour les experts. Mais la vraie revendication c'est de voir, et à l'époque c'était encore plus important qu'aujourd'hui, à part pour une certaine sorte de famille qu'on verra qui n'avait pas de sang, mais à l'époque toutes les femmes avaient du sang. Chez Imalotin Betulin, Yashkim Lebedin, il se lèvera pour aller au Bedin. Beod Kaasso Alav. Je vous demande de bien faire attention aux mots. Alors qu'il est encore en colère. Et on a très peur qu'il ne soit plus en colère. On essaiera de comprendre pourquoi. Beod Kaasso Alav. Alors qu'il est encore en colère. Et alors quoi? Mais pourquoi la colère ne pourrait pas durer deux jours? Et qu'est-ce que ça change? Alors ce qu'on recherche ici, c'est que cet homme ne se refroidisse pas. C'est-à-dire que sa femme peut très bien, si, imaginons qu'il se marie le lundi, du mardi au mercredi jusqu'au jeudi matin, il aura le temps de s'arranger avec sa femme, de se réconcilier avec sa femme. Elle aura le temps de le charmer, de faire en sorte de se réconcilier. Et là, il y a un grave problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si elle a fait znout, elle a une relation avec un autre homme entre les Kiddushim et les Nisouin, cette femme lui est interdite. On verra et on essaiera de comprendre, ce sera le sujet des Aharonim, à quel point c'est important pour devoir, eh bien, fixer le jour du mariage alors que c'est un safek. Là, c'est uniquement un safek parce que peut-être qu'elle a eu des relations avant les Kiddushim, avant le mariage. Et à ce moment-là, on verra que c'est différent. Parce que si elle a eu des relations avant le mariage, eh bien, avant les Kiddushim, avant les 12 mois, donc, il peut très bien dire, on verra mes cartes à out, on verra qu'il peut lui baisser la valeur de l'actuva, mais il a le droit de continuer à vivre avec elle. Par contre, si c'est entre la période des Kiddushim et des Nisouin qu'elle l'a trompé, et qu'elle a une relation avec un autre homme, eh bien, avec consentement, eh bien là, évidemment, elle lui est interdite, et on ne veut surtout pas qu'elle se refroidisse. Par exemple, sachons également que pour un Kohen, c'est encore plus grave, parce que pour un Kohen, très bien, si elle a été même violée pendant cette période, elle lui est interdite. Donc, depuis les Kiddushin, depuis la première partie du mariage, jusqu'à la seconde partie jusqu'à la Nisouin, si cette femme a été violée ou a épousé ou a eu des relations avec un autre homme, elle lui est interdite pour un Kohen. Et pour un homme qui n'est pas Kohen, c'est uniquement avec consentement que là, elle lui sera interdite. Donc, qu'est-ce que nous précise Rashi? Essayons de bien comprendre ce Rashi. Rashi nous dit, Shema it payes, alors, Ve'im yesh sha'ut ben ta'im, si on laisse quelques jours, c'est-à-dire que c'est pas immédiatement après cette nuit de noces que le Beddin est présent pour et siège, mais on laisse encore un jour ou deux, Shema it payes, petite carrière d'ato, de peur, on verra, c'est assez lointain, mais on dit de peur qu'il se refroidisse, Ve'yekaimena, et il va se réconcilier et continuer à vivre avec elle. Les Mekayem, il concrétise sa relation avec elle. Il l'accomplit. Et dit Rashi, Veshema, Hizinta, Tartav. On a peur qu'elle ait une relation avec un autre homme. Tartav, ça veut dire alors qu'elle lui était déjà son épouse. C'est-à-dire entre la période des Kiddushin et la période des Nisouin. Vene Esraala, et à ce moment-là, lui est interdite. Kedéal Finan. Comme on l'apprend dans la Gemara dans Sota, ve nistera ve hi nitmea, puisqu'elle s'est enfermée, donc elle est nistera ve hi nitmea, d'accord? Elle s'est isolée et elle s'est rendue impure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'elle s'est, le passou qui parle de la femme Sota, D'accord? Le principe de perdre la femme sota. Une femme qui a été mise en garde par son mari, elle a peur de s'isoler avec un certain homme. D'accord? Donc il y a des dynim spécifiques concernant cette femme-là. Cependant, on verra qu'on apprend, donc de manière plus générale, qu'une relation avec, avec un homme, avec un autre homme, alors qu'elle est mariée, donc relation extra-conjugale, rend la femme interdite à son mari. D'accord? De ce passage de Nistera Benitmea, même s'il parle de la femme sota, on l'a extrapolé pour toutes les femmes. Benitmea. Umitor sheyavo le bedin. Et puisqu'il va venir au bedin, en venant au bedin, à ce moment-là, idvarer adavar, que sheyetse hakol, ce souci s'éclaircira. Parce que même s'il va au bedin, et qu'il n'a pas de preuves, on verra que ça suffit pas. Il va revenir au bedin, il va dire petar patur matzati, retanat betulim. Mais peut-être qu'en réalité, cette femme lui est, on verra, ne lui est peut-être pas encore interdite. Mais à ce moment-là, dit Rashi, et nous allons beaucoup développer sur Rashi, Bezrat Hashem, Rashi nous dit, qu'est-ce qui se passe? Mitor shavole bedinit parit varer adavar kshetze akol, shema yavou edin, de peur que viennent des edin. Ou bigmara, parir, et de la gmara, on posera la question, mais kinase bechal bechabat, qu'elle épouse cet homme, pourquoi pas aussi le dimanche, comme on a expliqué la question un petit peu plus tôt, au début de ce cours. Donc, ça veut dire que Rashi a l'air d'être, d'avoir un, il est très particulier ce Rashi. C'est de peur, de peur, de peur. De peur que, on a peur que quoi, qu'il se refroidisse. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il vienne le lendemain matin. Et si jamais il ne se refroidit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir le lendemain matin. Et là, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire sortir une rumeur. Cette rumeur va peut-être faire venir des témoins. Et ces témoins peut-être témoigneront que cette femme a une relation pendant la période des Kiddushim au Nisouin. A priori, c'est assez lointain. C'est assez lointain? C'est de peur, de peur, de peur. Et donc on essaiera de comprendre que ce Rashi, en réalité, il n'est pas du tout simple. En fait, Rashi vient ici sur un problème que nous avons qui est très important et qu'on développera dans le prochain cours, qui est un sfek sfeka, un double safek. Quand il y a un double doute, il n'y a aucune raison de faire quelque chose de particulier. Quel est le double doute ici? Le premier, c'est peut-être que elle n'a pas, même si elle est vierge, elle n'est pas vierge, d'accord? Ce qui est en principe un homme, on avait vu, il ne va pas aller le lendemain matin du mariage au tribunal dire que sa femme n'est pas vierge alors qu'elle l'était, d'accord? On verra qu'il y a des raisons, et on expliquera dans la Gemara un peu plus tard, qui font qu'en principe, dans certaines situations, en tout cas, on écoute cet homme-là. On ne le prend pas pour un fou, on l'écoute. Surtout s'il a dépensé tout son argent pour, ou beaucoup de, une grande partie de son argent pour faire des belles festivités et pour organiser un mariage. C'est ce qu'on la Gemara dira plus loin, on l'a déjà vu ensemble. Maintenant, le double safek, c'est quoi? Shema lav tartav nivala. Peut-être qu'elle a eu, d'accord, elle a eu une relation, elle n'est pas vierge. Mais peut-être qu'elle a eu des relations avant les Kiddushin. D'accord? Et même avant les Kiddushim. D'accord? Alors, pas seulement ça. Premièrement, peut-être c'était l'Aftaftar Nivela. Et en plus, et même si c'était pendant la période de Kiddushim, peut-être qu'elle était Anoussa, peut-être qu'elle a été violée. Peut-être que cette jeune femme a été violée pendant la période, donc c'est un double safek. Et si c'est un double safek, on verra ce qu'elle aurait pu le dire et à quel moment elle doit le dire. Mais c'est un double safek qui fait que, a priori, c'est un peu problématique. Rashi va dans une réflexion et dit schéma et schéma et schéma et d'avant. On développera sa présentation quand on va voir le Tosfot. Cependant, essayez de bien voir les Rishonim. Ce que je vous ai rapporté également la raison, c'est la seule raison qui en fait est importante et qui va fixer faire en sorte qu'on fixe une date de mariage. Comme disent tous les Rishonim, vous pouvez voir le Ritva, le Rashba, qui rapporte que si on a rapporté cette raison, c'est uniquement la Mishnah n'a pas rapporté les autres raisons, la raison de Shakdou, et la raison de Bracha des Simanim, pourquoi mercredi et pourquoi jeudi. Ces raisons n'ont pas été rapportées dans la Mishnah. Pour quelle raison? Le Ramban, Nachmanin, il demande le Ramban, le Ritva, le Rashba. Il dit, mais c'est très simple, parce que c'est la raison. La Mishnah rapporte, le point le plus important, c'est quoi? C'est Batedinim Yoshvim. C'est le fait de devoir aller au tribunal pour avoir un problème juridique, un vrai problème juridique. Ça, c'est ce que rapportent les Rishonim. Le Ran aussi nous dit, vous pouvez voir le Ran sur place, il dit que avec Bracha et Shakdou, on n'aurait jamais été métaqué, on n'aurait jamais instauré un jour. Là, on n'aurait jamais empêché d'attendre encore 2-3 jours pour le mariage. On dit, mariage, toi, c'est uniquement la Tana des Betulim qui fait qu'on attend qu'on fixe une date particulière. Maintenant, en plus de ça, on peut rajouter des raisons, comme la Gemara rajoutera. Chaque douce, c'est qu'il faut préparer les festivités, donc il faut 3 jours de préparation. La bracha, parce que c'est le jeudi, et c'est le jeudi ou le mercredi soir, donc c'est le jeudi, la bracha de Dagim. La bracha du vendredi, c'est la bracha de l'homme. Mais c'est en plus, ça c'est ce que rapporte les Rishonim. Mais on essaiera de bien comprendre comment ça réfléchit, qu'est-ce que Rashi vient dire ici. A priori, c'est un double safek, et on étudiera ça quand on étudiera le Tosfot, Bezrat Hashem, au prochain cours. Essayons d'abord pour l'instant, si vous permettez, d'étudier juste le Tosfot en haut, qui, comme tous les premiers Tosfot de toutes les Masertot, commence toujours déjà par poser la question la plus importante. Déjà, ici, Betula, c'est le premier mot. Vous remarquerez qu'il est en grand, Betula. Ah. Et déjà, Tosfot nous demande, Ha delo katane ha Betula. Donc, on aurait dû a priori enseigner la Betula. Ha. Et on l'a déjà vu ensemble à plusieurs reprises que le premier mot, on parle de la femme qui concerne donc du pasouk, on aurait dû parler d'un article, ce qu'on appelle un article défini. D'accord ? He, le he ayedia, c'est ha betula. Donc on voit à plusieurs reprises que dans le chasse, que quand on prend le premier mot, on parle de la femme, comme l'avait expliqué la femme, on dit ha ish mekadesh. Ha isha. Ha ish mekadesh. D'accord ? Aisha là-bas, on disait quoi ? Aisha Mekadeshet. La Gemara avait posé la question, pourquoi on ne dirait pas Aisha Mekadesh, vous vous rappelez. Mais on disait Ha Isha, la femme. On parlait de la femme du Pasouk. D'accord ? Pourquoi ici on ne dit pas Ha Betula ? Demande Tosfot. On aurait dû dire Ha Betula ? D'accord ? La Gemara nous dit Ha Delokatane Ha Betula. Qu'il est tanné, comme il est enseigné, Ha Isha Niknit, la femme s'épouse de 3 manières différentes. Ha Yebama Niknit, également on a vu. Dans Kiddushin, il y avait écrit dans le deuxième Mishnah, après la. Ha Yebama, la Yebama Niknit. Alors, réponds à Tosfot. Réponds à Tosfot. Mishum, la raison en est. De Hatam Akra Kaye. Parce que là-bas, lorsqu'on parle de la femme, on parle de la femme dont on a parlé dans le Passouk. Il s'agit de la femme. La femme qui est énoncée dans le Passouk. Hatam Akra Kaye. D'accord ? Ha femme. D'accord ? C'est quoi? Quel pasouk? Qui est Karishisha? Qui est Karishisha? C'est le pasouk de Isha. Donc on dit la Isha que le pasouk parle, comment elle s'acquiert de telle et telle manière. D'accord? Là également, qui est Karishisha? Ha Isha Ktuva. Vechen Ha Yebama. Ainsi la Yebama, on parle de la femme qui est la Yebama. Alors que chez nous, Avalacha, Lo Kaeakra, ça se rapporte, on ne se rapporte pas sur un pasouk, on ne se rapporte pas sur un verset. C'est pour ça que chez nous, on n'a pas mis Ha Betula. D'accord ? Maintenant, on nous demande la Gemara, le Tosfot, pardon. Ve'a de l'otna de perakama de kidushim, ha eved ivri, vous rappelez cette question, on l'avait déjà posée. Bon, ça ne nous concerne pas à nous réellement, mais par rapport à là-bas, pourquoi on n'avait pas parlé de ha eved ivri ? Pourquoi il était écrit dans les Mishnayot de kidushim au début, eved ivri ? Va, donc, de l'otna de perakama de kidushim, ha eved ivri. Afalpidirtiv bekra, nous demande Tosfot. C'est pas une raison que tu rapportes là, de dire que ça se rapporte au verset. C'est pas une raison pour écrire Ha, puisqu'on voit bien que dans Eved Ivri, on parle du Eved Ivri qui est énoncé dans le Passouk, et pourtant il n'y a pas écrit Ha Eved Ivri, écrit Eved Ivri. Réponds, Tosfot, qui takana, ti takna, et qui tikne Eved Ivri. Pourquoi? Le Passouk dit bien qui tikne Eved Ivri, donc on aurait dû dire Ha Eved Ivri. Mishum de imken avele le mitne Ha Eved Ha Ivri. Parce que tu voulais vraiment dire ainsi, il aurait fallu dire Ha Eved A Ivri, d'accord? Donc on aurait dit deux fois. Ha Eved A Ivri. Et c'est pas l'habitude du chasse de parler comme ça. C'est pas une façon de parler, de dire Ha Eved A Ivri. D'accord? Pourquoi? En plus de ça, on parle ici d'un esclave juif et non de l'esclave d'un juif. Si on aurait dit Ha Eved A Ivri, d'accord? Alors, chez Enodavouk, c'est pas l'habitude qu'on a de faire ainsi. Enodavouk, oui, tout à fait, excusez-moi, oui. Enodavouk, ouais, tout à fait. D'accord, exactement, excusez-moi, parce que ça, on ne peut pas dire, vous avez raison, on ne peut pas dire Ha-Eved, Ha-Ivri, on dit Ha-Eved, Ivri. On peut pas dire, alors qu'on aurait dû, si on voulait vraiment là-bas parler de celui du Passouk, se référer au Passouk, on aurait dû dire Ha-Eved, Ha-Ivri, ce qui ne se dit pas, parce que ce n'est pas Davouk. Vous pouvez voir également d'autres raisons dans la Gemara, dans Kiddushin, pour les voir, dans ce fait, là-bas rapporte d'autres raisons. Ve'en der hachas et daberken, ce n'est pas l'habitude du chasse donc de parler ainsi. Ou mi ou cependant, dit Tosfot, cependant. Gabé Ish ve Isha. Cependant, dit Tosfot, lorsqu'on on parle d'un sujet qui touche à Ish ve Isha, d'accord, Ish ve Isha, c'est l'homme et la femme. Là, on a l'habitude d'utiliser le mot Ha'ish, Ha'isha. Même quand on ne parle pas d'un pasouk. Même lorsqu'on ne se réfère pas à un pasouk. Comme c'est écrit dans Evamot, nous dit Tosfot. Pourquoi? Bekol makom Aisha regilim, bekol makom Meshanot bah behe avec un he. On a toujours l'habitude d'écrire avec un he, le he ayedia, donc le préfixe. Afalgav de lokayakra, même si on ne parle pas de pasouk. Kemo ha isha shealcha, comme on voit ha isha shealcha dans Evamot, ha isha shenitar mela, ha ish madiret beno benazir. D'accord? À chaque fois, on a l'habitude, on voit, de parler de ce cas-là, alors que a priori, on ne se réfère pas uniquement au pasouk. Quand le Maharam Shif, il explique que à partir du moment, parce que la Tosfot, il n'a pas répondu, le Tosfot, il a terminé en disant que quoi? Que on a vu que Ha'ish et Ha'isha aussi, on le dit avec un He. Pourtant, on ne se réfère pas à un pasouk. Mais dit le Maharam Shif, à partir du moment où on a dit que quand on parlait de l'homme et de la femme qui se référaient au pasouk, on parlait de quoi? On a dit avec le He, Ha'idia, Ha'ish, Ha'isha. Alors, ça a été généralisé aussi pour les autres cas. Donc pas seulement quand on se réfère au pasouk, même quand on se réfère pas au pasouk, quand on parle de l'homme et de la femme, on a généralisé, on a dit ha'ish ve ha'isha. Et permettez-moi de vous rapporter une autre raison intéressante qui est rapportée dans le Ratam Sofer, s'il vous plaît, dans le Ratam Sofer, intéressante, qui, je crois que c'est le Ratam Sofer, si je ne me trompe pas. Le Ratam Sofer nous rapporte une raison très très sympathique. Il dit que, il me semble que c'est le Ratam Sofer. Il rapporte, mais a priori, ici, on peut répondre beaucoup plus simplement. On pourrait tout simplement dire que quoi? Comment on va l'appeler cette femme la Betula? Ha Betula? Alors qu'en fait, on ne sait pas si elle va être Betula réellement. Puisque tout simplement, le cas de la Mishnah, c'est de dire qu'elle se considère comme une Betula, puisqu'elle vient mariée en tant que Betula, alors que le grand problème, c'est qu'elle ne l'est peut-être pas. qu'elle ne l'est pas Betula. Donc, il est évident qu'on ne peut pas appeler cette femme Ha Betula, la Betula. Ce n'est pas la Betula par excellence, alors que justement, la Mishnah parle d'un cas où ce n'est pas une vraie Betula, où en réalité, le mari vient demain revendiquer et dire qu'elle n'est pas vraiment la vraie Betula. Donc, on enchaîne pour la...